Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, enivrez-vous sans trêve.
Bonjour Thierry Jobard, aujourd'hui nous sommes sur Radio Primitive pour parler de votre ouvrage « Contre le développement personnel » aux éditions Rue de l'Échiquier. Est-ce que tout d'abord vous pourriez vous présenter à nos auditrices et auditeurs aujourd'hui ?
Eh bien bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Je suis libraire, voilà.
D'accord.
Je suis libraire dans l'Est de la France depuis longtemps.
À Strasbourg, c'est ça ? Oui ?
Oui, à Strasbourg.
Ok. Et donc, comment vous est venue l'idée d'écrire sur ce sujet du développement personnel ? C'est un livre qui est paru en 2021, il me semble.
Oui.
Et quel a été l'élément déclencheur ? Est-ce que ça vous trottait dans la tête depuis un certain temps ou comment ça s'est passé ?
Non, c'est le fruit d'une situation... assez conjoncturel. En fait, je ne m'occupais pas du rayon développement personnel et pour des considérations d'organisation interne tout à fait contingentes, j'ai hérité du rayon développement personnel à un certain moment. Et donc, je ne connaissais pas cette littérature et étant donné que j'étais amené à devoir vendre des livres de développement personnel, j'ai considéré qu'il fallait au moins que je sache de quoi il était question. Donc, j'ai commencé à en lire. Jusqu'à présent, je voyais les titres passer et ça me laissait un peu dubitatif, voire moqueur pour certains titres très, très alléchants. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à lire, j'ai été assez stupéfait par ce que j'ai vu dans ce contenu, c'est-à-dire que plus je lisais et plus mon impression se confirmait que j'avais affaire à quelque chose de tout à fait étonnant, nouveau d'une certaine façon, mais dans l'ensemble assez consternant, puisque je trouvais que le contenu était parfois tout à fait indigent, parfois trompeur, et le plus souvent... sans grand intérêt, mais ça, c'était une première impression. Et en continuant à lire et en m'interrogeant davantage, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas se fier aux apparences et que derrière cette pauvreté apparente de contenu, il y avait derrière tout un mode de pensée. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir et à me dire qu'il fallait peut-être en faire quelque chose parce que j'ai lu des livres de développement personnel, mais j'ai également assisté à des conférences suivi des séminaires et aussi beaucoup discuté avec des clients et des clientes,
oui.
Puisque c'est une littérature à destination principalement d'un public féminin. Et je m'étonnais qu'on trouve de l'intérêt à ce genre de livre, parce que moi, ça me tombait des mains, en fait. J'essayais de tout comprendre. Et donc, j'ai rencontré... grosso modo deux types de lecteurs et de lectrices, à savoir ceux qui considéraient que finalement c'était que ça faisait du bien ou en tout cas que ça ne faisait pas de mal, c'est souvent la phrase qui revenait, ça, au moins ça fait pas de mal, et puis d'autres clientes qui me disaient sur un ton assez désespéré, et c'était pas un désespoir fin, qu'elles savaient plus trop quoi penser puisqu'elles avaient lu tel ou tel livre à la mode du moment, ou tel autre, et puis encore un autre, et qu'elles avaient essayé d'appliquer les méthodes qui étaient dispensées dans ces ouvrages, et qu'elles ne parvenaient pas à avoir d'évolution dans leur situation personnelle, et qu'au contraire, elles se trouvaient encore plus mal qu'avant leur lecture. Et donc, elles étaient perdues. Voilà.
Alors, tout le monde n'a pas les clés. Enfin, vous, quand vous avez commencé à lire ces ouvrages-là, ça s'est apparu tout de suite comme quelque chose d'un peu pauvre intellectuellement. Par rapport aux clients et clientes que vous aviez et que vous avez en librairie, il y a eu un décalage du coup parce que certaines personnes sont quand même très friands de ce genre de contenu.
Oui, mais c'est pour ça que j'étais curieux, parce que moi, j'ai une formation en sciences humaines, donc en philo, en sociaux, en psycho.
D'accord.
Donc, effectivement, mon regard n'était pas neutre. Il ne l'est jamais, d'ailleurs. Mais
Il n'y a
le
pas un
questionnement
certain, il n'y a
qui...
pas un certain mépris du coup, malgré tout, sous-jacent?
Non, c'est pas
Non.
du mépris, c'est de la colère.
D'accord.
C'est vraiment, le livre est né d'une colère qui était l'impression de plus en plus tenace qu'on prenait les lectrices pour des idiotes. Parce que si vous voulez, il n'y a pas forcément de mensonge dans tout ça, mais il y a quand même une façon de s'adresser au lectorat presque de façon puérile. En lui expliquant grosso modo, pour résumer, comment il doit faire pour vivre. Et c'est ça l'autre question derrière, c'est comment se fait-il qu'on ait recours à ce genre de choses pour savoir comment faire pour se sentir mieux, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour mieux communiquer, pour être capable de gérer, entre guillemets, ses émotions. Voilà, tout ça maintenant se trouve dans des livres parmi d'autres formats, bien sûr. Mais c'est surtout les livres qui me concernaient puisque j'étais libraire.
Oui.
Et voilà, c'était ça l'interrogation aussi, c'est que va-t-on chercher là-dedans et pourquoi va-t-on là-dedans pour trouver des réponses? Sans doute que les réponses étaient ailleurs avant et qu'elles ont disparu.
Et si on donne une définition du développement personnel, enfin déjà c'est apparu dans enfin, dans les années à peu près, est-ce qu'on a une date à peu près de quand c'est apparu?
C'est difficile à dire parce que rien que l'expression développement personnel est tellement floue et elle englobe tellement de contenus différents que ça veut presque rien dire le développement personnel. Et il y a plusieurs sources, il y a plusieurs origines. C'est-à-dire que la méthode Coué qui date du tout début du XXe siècle, d'une certaine façon, c'est du développement personnel. Le courant New Age qui vient des États-Unis dans les années 60-70, c'est aussi d'une certaine façon une forme de développement personnel. Mais si on essaie de trouver des traces de ce qu'on appelle aujourd'hui développement personnel, les auteurs de ce genre de livres ne se privent pas de les faire remonter jusqu'à l'Antiquité en disant, par exemple, ça c'est le marronnier. Voilà, connais-toi toi-même de Socrate, c'est déjà du développement personnel. Donc, vous voyez que ben, on peut légitimer une interrogation qui finalement est assez intangible dans l'être humain. Le problème, c'est la déformation des contenus qui sont utilisés, parce que je ne pense pas qu'on puisse dire que les Athéniens du 5e siècle avant Jésus-Christ avaient les mêmes préoccupations que nous, et surtout, ils ne vivaient pas dans le même monde que nous, n'avaient pas les mêmes structures mentales. Et vous voyez, tout ça, c'est utilisé. Mais c'est déformé. C'est déformé dans un but qui est de démontrer que voilà, ceux qui écrivent du développement personnel ont raison de se poser ce genre de questions. Ce qui n'est pas faux. Mais ce sont les réponses apportées qui, moi, me posent problème.
Oui, d'ailleurs, vous le rappelez, les ouvrages de développement personnel, je cite du coup un peu quelques passages du livre, les ouvrages de développement personnel obéissent en général aux critères formels suivants, un ton de confidence vis-à-vis du lecteur auquel on s'adresse directement en le tutoyant, le recours à l'expérience personnelle de l'auteur et ou de l'autrice, et à des exemples qui sont autant de paraboles ou de leçons de morale, la répétition et l'insistance de messages à faire passer, notamment la puissance de la volonté personnelle et sa capacité à modifier sa situation, et la prescription de trucs et recettes qui résoudront les difficultés selon le modèle problème-solution. Donc vous avez un problème, on a la solution sur le mode d'une recette à suivre, un plan strict bien défini par l'auteur ou l'autrice des ouvrages de développement personnel. C'est souvent comme ça que ça fonctionne en fait.
C'est souvent, mais pas toujours. Il y a énormément de variations au sein du développement personnel, c'est-à-dire que même le tutoiement n'est pas automatique. Vous avez des gens qui ont eu une formation universitaire tout à fait solide en psychiatrie, en philosophie, en psychologie, qui font du développement personnel. Donc, ils ont un socle sur lequel s'appuyer, mais d'autres n'ont absolument aucune formation ni aucune compétence à part de tirer cette compétence de leur existence propre et de leurs expériences propres en disant, voilà, moi j'ai vécu ça, Voilà comment j'ai réagi. C'était difficile, j'y suis arrivé. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour que vous aussi, vous puissiez y arriver. Voilà. Mais justement, la psychologie est née de, du dépassement de l'introspection. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dire « je vais réfléchir sur moi-même ». Et avec un petit peu d'aide de quelqu'un de très bienveillant, je vais pouvoir aller mieux. Non, c'est, malheureusement, ça serait bien. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou alors, de façon très ponctuelle, parce qu'il faut reconnaître, je suis le premier à le dire, qu'à certains moments de doute, de perte, d'angoisse, le développement personnel peut apporter une aide. Ça, je ne le nie pas.
D'accord.
Mais si vous voulez, c'est toute la conception de l'individu qui est derrière, et même la conception politique qui est derrière, qu'il faut mettre au jour.
Alors justement, est-ce que du coup, ça, c'est parce que l'individu tel qu'on l'a conçu au fil des années, depuis plusieurs années, a évolué par la perte aussi des grands récits, comme vous le rappelez dans le livre, qu'on est arrivé à un individualisme hyper... comment dire, hyper moderne. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais...
Hyper moderne ou post-moderne, comme on veut, peu importe le terme en l'occurrence, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une révolution qui a eu lieu, mais elle était invisible. On ne l'a pas vue arriver. On en voit, et encore, tout le monde ne le voit pas, les effets depuis quelques années, mais la révolution a eu lieu au tournant des années 70 et 80. La révolution, c'est le néolibéralisme. Donc, elle a commencé aux États-Unis avec Reagan. Elle a été ensuite en Angleterre avec Thatcher. Et puis, ça s'est implanté de façon mondiale parce qu'il y a eu une mondialisation et le néolibéralisme qui l'a accompagné. Donc, le néolibéralisme, on peut passer beaucoup de temps à essayer de le définir. Mais grosso modo, c'est l'idée selon laquelle tout ce qui fait un frein est tout ce qui fait obstacle à la concurrence doit être supprimé. Alors, dit comme ça, ça paraît assez abstrait, mais très concrètement, ça veut dire que la concurrence, elle va se généraliser entre les pays, bien sûr, entre les marchés, et puis aussi entre les salariés. C'est-à-dire que il y a toujours eu de la concurrence au sein d'une économie, mais aujourd'hui, on le voit en France, typiquement, l'exemple, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire que la concurrence, elle n'a plus lieu simplement au sein d'une entreprise, ou au sein d'une branche ou d'un secteur, elle a lieu entre des travailleurs qui coûtent moins cher et qui donc vont servir à la production, qui va être délocalisé, et donc la concurrence des ouvriers ou des travailleurs français, par exemple, européens, elle va être là. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'industrie en France, c'est parce que ça coûtait beaucoup moins cher de produire ailleurs. Donc voilà, il n'y a plus de frontières au marché.
Donc ça crée aussi de nouvelles détresses, on va dire.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui se sont mêlés, qui ont contribué à la situation actuelle. C'est-à-dire que il y a eu un effacement du religieux, enfin en tout cas de la religion dominante qui était le catholicisme en France. Donc ça s'étale sur 200 ans. La phase d'accélération, la dernière phase, c'est à partir des années 60 en France, par exemple. Il y a eu un désengagement de l'État, de plus en plus. Ça aussi, le néolibéralisme, c'est ça. C'est que l'État n'est plus là pour arbitrer la sphère économique. Le politique n'est plus au-dessus de l'économique. Il doit favoriser l'économique. Et donc, l'État est simplement non plus celui qui va laisser faire et intervenir au cas où c'est nécessaire, mais qui va favoriser la mise en concurrence et qui va se désimpliquer de tout un tas de politiques sociales, même si il faut préciser qu'en France, on a encore une situation relativement privilégiée par rapport à d'autres pays, évidemment. Il y a aussi la tertiarisation de l'économie, il y a aussi l'idée selon laquelle ce qui importe, c'est plus de produire des biens, mais de produire des services. Tout ça a joué. La fin des grands récits, c'est aussi l'idée selon laquelle le salut ne sera plus politique parce que le dernier grand récit qui s'était opposé au capitalisme, c'est-à-dire le communisme, s'est effondré avant même d'avoir existé, si on peut dire même. Et donc, il n'y a plus d'alternative. C'est ce que disait Thatcher.
Oui.
Il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est le marché ou rien. Donc, Évidemment, le marché apporte beaucoup de choses, évidemment que la prospérité a eu lieu, mais la phase de prospérité, c'est celle de l'après-guerre jusqu'aux années 70, là où il y avait un système de redistribution et d'équilibre entre capital et travail. Bon. À partir de la révolution néolibérale, c'est terminé, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est les dividendes qu'on va verser aux actionnaires, par exemple. Donc les règles du jeu ne sont plus tout à fait les mêmes, c'est-à-dire qu'avant, ces règles étaient très simples. Tu travailles à l'école, tu as un diplôme, tu travailles bien dans ton entreprise ou dans ton secteur, et tu auras une forme de reconnaissance, qu'elle soit salariale ou statutaire ou sociale également. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, on voit des gens qui s'épuisent à travailler et qui n'ont plus cette reconnaissance, oui, et qui se retrouvent, alors même qu'ils sont travailleurs et alors même qu'ils sont en CDI, ils se retrouvent dans des situations de quasi-précarité, en tout cas d'inquiétude, puisqu'on assiste aussi à une paupérisation des classes moyennes sur lesquelles s'était appuyée la prospérité des années 70, enfin 60-70, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est assez complexe tout ça. Mais c'est pour montrer qu'il y a un ensemble de facteurs qui sont pas seulement nationaux, ni individuels, mais mondiaux.
Et donc, au-delà de ça, du coup, on a quand même la religion du bonheur, on va dire, que vous appelez la nouvelle religion de la mondialisation, qui mène les individus à rechercher toujours plus de bonheur, au-delà même de leur travail et de la reconnaissance qu'ils pouvaient avoir auparavant par leur travail. Ça peut passer par plein de choses, mais c'est aussi un besoin de reconnaissance qui n'est pas comblé, on va dire, aussi. Qui fait aussi que le développement personnel va trouver un terrain assez fertile.
Oui, parce que si vous voulez, il y a eu, pour employer un terme un peu barbare, une désinstitutionnalisation. Donc, c'est-à-dire que les grandes institutions qui encadraient l'individu depuis plusieurs siècles, et qui ont évolué, hein, bien sûr, et qui étaient par exemple l'Église, donc qui accompagnait les individus du berceau à la tombe, du baptême jusqu'à l'extrême onction, en donnant un récit, en donnant un sens à l'existence, quitte à dire que notre existence n'était pas la plus importante, mais que c'était celle d'après la mort, dans l'au-delà, qui avait de l'importance et qu'il fallait s'y préparer. Bon, ça a disparu en grande partie, même si effectivement il y a des espèces de retours de foi, si on peut dire, mais qui sont très particulières. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais les récits, les grands récits politiques aussi. Le Parti communiste était d'une certaine façon une concurrence de l'Église, puisqu'il entendait encadrer aussi l'existence des militants tout au long de leur vie, en leur donnant là aussi un sens, à savoir que voilà, le moteur de l'histoire, c'était la dialectique, c'était la lutte des classes, et que on allait vers des lendemains qui chantent, parce que petit à petit, on allait s'approprier les moyens de production, et qu'il y aurait une plus grande redistribution, plus juste, en tout cas en théorie. Tout ça, c'est terminé. Et même l'entreprise aujourd'hui, alors on sent bien qu'il y a une espèce de balancement, parce que il y a des interrogations métaphysiques sur comment trouver du sens au travail, par exemple. On peut se demander si vraiment l'entreprise, c'est le lieu pour se poser ce genre de questions, mais il ne reste que ça comme institution d'une certaine façon, puisque même au niveau de la cellule de base institutionnelle qu'est la famille, les choses ont grandement évolué, hein, puisqu'il n'y a plus d'un divorce sur deux mariages, parce qu'il y a des recompositions familiales, etc. etc. Donc, les choses qui semblaient intangibles, durables, ne le sont plus. Ça ne veut pas dire que, parce qu'elles étaient là, qu'elles étaient forcément bénéfiques. Évidemment, non. Il y avait des mauvais côtés, comme dans tout système. Mais on trouve un individu qui est complètement esselé dans une société atomisée. Je veux dire, le taux de syndicalisation s'est effondré aussi petit à petit. Donc, vous voyez, tout ce qui structurait l'individu et qui le rattachait à une forme de communauté n'est plus là. Donc il faut retrouver d'autres, à la fois il faut retrouver du sens, il faut retrouver des réponses à nos questions qui ne vont plus de soi, et en même temps il faut faire sa place au sein d'un système concurrentiel.
Et puis il y a aussi une quête d'identité aussi, la quête du soi, la quête de qui suis-je, où vais-je, que veut dire le moi aujourd'hui, et quelle est ma place dans la société, etc. Et le développement personnel vient aussi apporter une pseudo-réponse pour que chacun trouve son moi authentique.
Oui, et alors ça, c'est pareil, c'est une derrière tout ça, il y a une certaine conception de l'individu, c'est-à-dire que historiquement, on a deux grands modèles pour expliquer la constitution des sociétés. On va dire soit que un contrat a été passé et que la société est une somme d'individus qui s'agrègent et qui, par addition, forment une société. Ça, c'est le courant plutôt libéral. Et puis, il y a une autre pensée politique qui consiste à dire la société, c'est plus que la somme des individus. Parce qu'il y a du symbolique, parce qu'il y a une forme de sacré, parce qu'il y a des institutions, parce que tout ça ne dépend pas que des individus et qu'ils sont transcendés par quelque chose. La version qui est en train de gagner, là, depuis quelques années, quelques décennies, c'est la première. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes des individus qui faisons société. Mais de plus en plus, et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, voire stupéfiant, on se rend compte que la société semble quelque chose de plus en plus loin de nous et finalement quelque chose dont on peut se passer parce que par soi-même, on serait capable de trouver sa situation, tracer sa route, trouver son chemin, etc. etc.
On en revient au volontarisme.
On y est, oui. Mais il y a pas mal de sociologues qui le constatent, ça, au travers de... C'est le résultat d'analyse et d'études qui montrent qu'effectivement, de plus en plus, on pense que c'est à chacun de se débrouiller et que c'est à chacun d'exercer ses droits sans que jamais se pose la question des devoirs. Parce qu'une société, c'est ça, c'est des droits, mais c'est aussi des devoirs. Et comme on est dans une... Le néolibéralisme, c'est ça aussi, et c'est une espèce de réutilisation et d'instrumentalisation de la pensée 68, où il était question de jouir sans entrave. Voilà, on est dans l'ère de la jouissance, c'est-à-dire qu'on veut profiter vite et intensément de ce qui s'offre à nous. Et donc, il faut trouver des ressources pour être capable de le faire et pour, du coup, s'affirmer soi-même de plus en plus.
Et vous dites à un moment donné aussi qu'on devient finalement nous-mêmes les produits. Les consommateurs de développement personnel sont dans l'autoconsommation finalement.
Et oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le développement personnel fonctionne parce que les valeurs qu'ils mettent en avant sont reconnues socialement. Ces valeurs, ce sont l'autonomie, la bienveillance, la résilience, la réactivité, l'affirmation de soi, l'empathie.
Être une belle personne.
Alors, évidemment que tout le monde trouve que c'est merveilleux d'être une belle personne. Oui, c'est chou comme tout. Ouais. Malheureusement, la vie ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on peut effectivement être des belles personnes de temps en temps, régulièrement peut-être, dans le meilleur des cas, mais on est aussi des salopards. C'est-à-dire que nous sommes aussi des êtres jaloux, envieux, mesquins, calculateurs, dominateurs, possessifs. Nous sommes aussi tout ça. Et l'image que donne le développement personnel de l'individu, elle est non seulement incomplète, mais elle est fausse et elle est complètement naïve. Parce que elle ne voit qu'un aspect des choses, celui qui l'arrange. Ouais. Alors ça, pour tout ça, elle s'appuie sur le dernier rapport théorique qui est la psychologie positive, qui est quelque chose qui est apparu aux États-Unis également, en Californie également, comme le New Age, 30 ans plus tôt. C'est au tout début du 21e siècle, la psychologie positive apparaît. Et là, on nous explique que le but du jeu, c'est de changer de paradigme. Ça aussi, c'est expressions qui viennent directement du New Age.
Les coachs en développement personnel ou les gourous, les nouveaux gourous du 21e siècle.
Oui, même si effectivement il y a de bons coachs, ça existe.
Oui.
Mais bon, là aussi ce sera un autre débat. En tout cas, il suffit d'un film qui vient de sortir pour
Ouais.
les mettre dans tous leurs états, parce qu'ils se sentent tellement,
Mais oui, mais oui.
tellement concernés d'un seul coup.
Le
Bon,
film
fermons la
Gourou, oui,
parenthèse. Hein.
avec Pierre Niney, ouais.
Voilà, c'est ça. Et du coup, le coup de génie de la psychologie positive, c'est de dire, bah, jusqu'à présent, les psychiatres, psychanalystes et psychologues n'ont fait que s'occuper des gens qui n'allaient pas bien. Nous, on va s'occuper des gens qui vont bien pour qu'ils aillent mieux. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est vraiment l'invention du siècle, puisque bah, voilà, ça y est, on y est. On va entrer dans l'amélioration permanente, l'optimisation de soi. Alors, la psychologie positive, qui a vraiment le vent en poupe en ce moment et qui commence à bien gangréner aussi certains départements universitaires, repose sur des approximations, sur des analyses et des expérimentations tout à fait contestables, mais c'est pas grave. On veut y croire, on veut y croire.
Oui,
C'est
c'est
une
ça.
question de croyance
Oui.
aussi. Hein, on veut être cette belle personne parce que on se plaît comme ça. On veut accéder à cette espèce d'idéal du moi, ou de moi idéal plutôt, mais parce que c'est valorisant, parce que c'est socialement valorisant et parce que c'est personnellement valorisant. Personne n'a envie de se lever le matin en se disant je suis un salaud et j'aime ça. Or, il se trouve que sur notre belle planète, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe depuis 2 ans, il doit bien y avoir quelques salopards dans le tas. Voilà.
Oula, ouais.
Hein? Qui ont toujours de bonnes raisons pour faire ce qu'ils font, bien évidemment. Mais vous voyez, il y a aussi cette façon de se tromper soi-même, on n'en parle jamais. Et c'est parce que le développement personnel, comme la psychologie positive, repose sur une conception de l'individu extrêmement pauvre. C'est-à-dire que on ne voit pas on ne veut pas voir les mauvais aspects, on ne veut pas voir les mauvais côtés de l'être humain. On veut simplement pouvoir être fier de soi-même et se gargariser des belles pensées qu'on peut avoir. Mais on sait malheureusement depuis Freud, quelles que soient les polémiques qui sont lancées contre la psychanalyse depuis quelque temps, une chose est tout de même acquise, et on n'a même pas besoin de la psychanalyse pour ça, une chose est acquise, c'est-à-dire que la nature humaine est très très ambivalente, et que c'est pas parce qu'on a la volonté de faire bien les choses on y arrivera. Beaucoup ont déjà essayé, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on le sait. Donc tout ça, vous voyez, c'est très superficiel, c'est
Ouais.
très joli, mais c'est superficiel.
C'est très marketing aussi. Ça surfe aussi sur les lois du marché et
C'est du
l'audience.
personal, c'est du personal branding, comme on dit. Hein? On veut se vendre et on retrouve cette situation de concurrence généralisée. On veut se vendre.
Ouais.
Donc il faut se montrer sous son meilleur jour. On veut se vendre sur le marché du travail, bien entendu, mais on veut se vendre pour trouver un logement. On doit se vendre sur le marché de l'amour ou du désir, dans les applications ou sur les sites de rencontres, parce qu'encore une fois, il faut, quitte à tricher un petit peu, hein, se montrer le plus désirable possible. Mais tout ça, oui, c'est du marketing, c'est de la publicité, c'est de l'autopromotion.
Oui. Et donc on parlait de la psychologie positive. Moi, je voulais enfin soulever aussi le paradoxe finalement qui est que le développement personnel vient s'infiltrer dans des sphères collectives au final, donc en entreprise, à l'université, mais toujours pour enfin, proposer un idéal finalement très individualiste.
Oui, parce que donc, comme je disais, on est dans ce système, dans cette conception de la société qui est typique du développement personnel, à savoir que l'individu s'oppose, ou en tout cas fait face à la société. La société étant le domaine et le règne des faux semblants, des conventions, de l'hypocrisie. Et face à cela, on va poser le fameux moi authentique. Tout pur et tout beau. Si chacun est animé des meilleures intentions du monde et agit de façon conforme à cette authenticité, et bien petit à petit, c'est encore un mantra du New Age, ça, petit à petit, les choses vont se répandre comme ça et le bien va triompher. Voilà, c'est cette vision-là, grosso modo.
Et c'est aussi utilisé, je veux dire, dans le management des entreprises.
Bien sûr, bien sûr. Oui, mais surtout que, comme je le disais, comme il y a une tertiarisation, comme on est dans une économie de services de plus en plus, on voit bien qu'il ne s'agit plus simplement de bien faire son travail. Il ne s'agit plus d'exécuter une tâche et ensuite de rentrer chez soi, de passer à autre chose. Non, il s'agit de faire preuve de compétences. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être discuté. Qu'est-ce que c'est que des compétences exactement? Il faut faire preuve d'un savoir-être. Il faut avoir des soft skills. Il faut avoir des attitudes, voire des traits de caractère qui seront reconnus et validés au sein de l'entreprise. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, parce qu'à la fin des fins, c'est ça. C'est qu'on va naturaliser les choses en disant, ben voilà, il y a les individus qui sont capables de faire ça et les autres qui ne le sont pas. Et comment définir ce que c'est qu'un savoir-être, sachant qu'il va être tout à fait variable d'une branche de l'économie à une autre, d'une entreprise à une autre, d'une culture d'entreprise à une autre. Il y a pas, c'est toujours des choses en situation. Donc, c'est des choses qui sont très difficilement mesurables et objectivables. Mais on va faire en sorte de se conformer à cette image qu'on attend. Vous voyez, on sait ce qu'on attend de nous. Donc, on va faire comme si.
Donc, c'est toujours une image, mais une image factice au final. Donc, on sort de.
Oui, c'est simplement des normes qui sont imposées. Seulement, elles ne le sont pas de façon autoritaire, mais elles sont suggérées ou elles sont, comment dire, tellement valorisées qu'il y a une espèce d'infusion qui se fait dans le corps social et même dans le corps de l'individu, puisque il va non seulement falloir se comporter de telle ou telle façon, mais même parler de telle ou
Oui,
telle
c'est ça.
façon. Hein, s'exprimer, ne pas montrer ses émotions telles qu'on les ressent vraiment, mais telles qu'on attend qu'elles soient de nous. Oui,
ça
c'est
vient
complètement
vraiment
différent.
Façonner quoi, la personne
oui.
et au final, enfin, on recherche un moi authentique et finalement on en devient complètement conforme aux autres.
Bah, c'est une forme d'aliénation en fait. On pose un modèle, on veut s'identifier à ce modèle, on va agir conformément à ce modèle. Même si c'est pas nous, mais parce qu'on sait qu'on sera reconnu si on joue ce jeu-là. Voilà, c'est tout. Et petit à petit, alors c'est plus ou moins durable selon les individus, mais petit à petit, ben, on va voir que ça craque. Parce que entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on devrait être, il y a un moment où la résistance psychologique, elle cède.
C'est une forme de masque, c'est pas autoritaire, mais au final, c'est quand même un masque qu'on nous demande de porter. Et enfin, j'avais entendu récemment, c'est Claire Touzard, qui est autrice et écrivaine, qui parlait justement du nouveau fascisme du développement personnel.
Ah, mais j'ai pas vu ça, mais il faudra que je regarde, oui.
Ouais,
oui, oui,
c'est...
oui c'est... Bon, le mot fascisme, il fait toujours un peu... c'est gros gourdin qu'on sort... Faut pas trop l'utiliser, sinon il a plus de sens. Mais c'est une forme
ouais,
de.
C'est comme oui, c'est comme tout.
C'est une forme de contrôle. Mais si vous voulez, la grande différence avec le développement personnel, c'est que il s'agit plus d'un contrôle externe, mais d'un auto-contrôle. C'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que une dictature, qu'elle soit fasciste ou non, elle se maintient pas simplement par l'autorité et par la répression. Il faut que les gens trouvent un intérêt dans ces régimes-là.
Ouais.
Les Allemands, jusqu'en 1941-1942, ils étaient tout à fait satisfaits du Troisième Reich. Tant qu'ils n'étaient ni socialistes, ni communistes, ni homosexuels, ni juifs, ni francs-maçons, tout allait bien. Quand on a vaincu la France en 1940, les foules en liesse sur le parcours d'Hitler dans sa Mercedes, ils n'étaient pas forcés de venir. Ils étaient vraiment heureux qu'on ait battu l'ennemi héréditaire. Donc, vous voyez, il y a une incorporation des normes et des discours.
Des croyances, ouais.
Oui, des croyances, mais c'est une idéologie. C'est pour ça que le développement personnel n'est qu'un symptôme en lui-même. On peut en parler en 5 lignes ou 10, on a fait le tour de ce qu'on peut lui reprocher. Mais c'est ce qu'il représente et c'est ce qu'il manifeste dans nos vies quotidiennes qui est intéressant. Et donc, il manifeste cette forme d'idéologie qui ne dit jamais son nom. Puisqu'on dit que vous êtes libre ou qu'on va vous aider à être libre.
Oui, c'est orwellien un peu.
c'est subtilement orwellien, ouais. Effectivement.
Et enfin, quand même, le mot est peut-être fort, mais vous en parlez à la fin du livre, c'est que rien que Donald Trump, son père, Alors, je ne sais plus exactement comment il s'appelait, mais lui-même était un pape du développement personnel. Et on peut aussi y voir derrière un lien indirect entre l'autoritarisme des puissants et l'idéologie du développement personnel aujourd'hui qui est en vogue et en même temps qui colle à l'époque.
C'était le livre était sorti, c'était encore le premier mandat de Trump, c'était pas encore le pire. Oui. Mais effectivement, il a suivi les enseignements d'un pasteur qui s'appelle Peale, Norman Vincent Peale, dans les années 50, qui dit que ce qui compte, ce n'est pas la vérité, mais la réalité désirée. Trump, c'est ça. C'est-à-dire que quand il conteste le résultat des élections, quand il est battu par Biden, il n'accepte pas la réalité parce qu'elle ne convient pas à son idée, parce qu'elle ne convient pas à sa volonté. Donc, il va vous expliquer qu'à force de volonté, il va pouvoir changer les choses. Alors, effectivement, la volonté joue un rôle dans nos vies, fort heureusement, mais certainement pas seulement au niveau d'un individu. Alors, s'il est puissant, évidemment, il a des leviers plus importants, mais si on démocratise ça et qu'on fait croire aux gens qu'à force de volonté, ils arriveront à tout ce qu'ils veulent, non, ça n'ira pas. La volonté, contrairement à ce que pense le développement personnel, n'est pas une puissance infinie. C'est-à-dire que c'est pas on veut, on peut.
Voilà.
C'est que on peut, c'est qu'on on peut parce qu'on... Enfin, on peut... on veut parce qu'on peut.
On peut pouvoir,
voilà, c'est ça. Ouais.
On va faire une petite pause musique. Donc, vous avez proposé à l'écoute aujourd'hui Led Zeppelin, When the Levees Breaks. Pourquoi ce choix ?
Pour rigoler.
Allez, alors on va rigoler et on écoute ça tout de suite. Et on se retrouve juste après. de retour sur Radio Primitive avec Thierry Jobard. Aujourd'hui, on parle de développement personnel et plus particulièrement de ce livre qui critique fortement le développement personnel aux éditions Rue de l'Échiquier. Moi, je voulais aussi, ce qui m'intéressait, c'était de votre expérience de libraire par rapport aux relations que vous avez pu avoir avec les clients du développement client et cliente. On disait que c'était principalement des clientes du développement personnel. Comment on fait aujourd'hui pour écrire déjà un livre contre le développement personnel et ne pas être non plus dans la stigmatisation des personnes qui consomment du développement personnel?
Mais ça, c'est très simple. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas que ceux à qui j'en veux, ce sont ceux qui exploitent le filon. Mmh. Certainement pas ceux qui en sont victimes. Mmh. Qui plus est, qui suis-je pour juger? Mmh. J'ai juste essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière le développement personnel. Oui. Voilà. Mais comme je le disais tout à l'heure, effectivement, ça peut aider à certains moments. Je le reconnais.
Oui.
Mais c'est agaçant, si vous voulez, parce que d'un point de vue purement de libraire, vous voyez arriver des centaines et des milliers de titres à longueur d'année sur des sujets qui ont été traités déjà des dizaines de fois, qui n'apportent rien, qui changent juste un petit peu l'emballage ou qui prônent une nouvelle méthode qui n'est pas nouvelle du tout. Vous voyez tous ces livres qui... C'est toute une économie. Le livre a une économie qui est un petit peu particulière et qui... par moment se rapproche beaucoup de la fast fashion, c'est-à-dire que des livres paraissent, ils restent un certain temps dans les librairies, et puis ensuite ils repartent. Et
en fonction de la mode.
Et s'ils n'ont pas trouvé leur public, ils sont détruits. Et ce sont des millions de livres qui sont détruits chaque année. À quoi ça sert tout ça? Vous voyez, il y a une responsabilité des éditeurs là-dedans aussi, dont certains en particulier, que je ne citerai pas, mais que je cite un petit peu dans le livre. Pourquoi s'acharner à produire des choses comme ça? Pourquoi exploiter à ce point les choses? Pourquoi créer des modes qui vont disparaître au bout de quelques mois? Tout ça est assez vain.
Et si on parle justement des méthodes qui se vendent depuis des années, on avait cité la psychologie positive. Il y a aussi dans le livre les 4 accords Toltec qui sont cités. Oui. Est-ce que vous pourriez faire un point justement sur l'histoire des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz? Vous dites, alors que le contenu du livre n'est pas plus Toltec que ma grand-mère relève carrément de l'imposture.
Oui, parce que si vous voulez, la civilisation Toltec, donc c'est premier millénaire.
J'ai mal cité la phrase, mais se réclamer de la sagesse des peuples disparus comme le font les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, alors que le contenu du livre n'est pas plus Toltec que ma grand-mère, relève carrément de l'imposture. J'avais pas la phrase en entier.
Oui, c'est de l'imposture, parce que si vous voulez, grosso modo, ce qu'on nous explique, la belle histoire, c'est que de génération en génération, depuis à peu près 1000 ans, s'est transmis un enseignement spirituel jusqu'à aujourd'hui, et alléluia, Don Miguel Ruiz nous fait l'honneur et le bonheur de nous transmettre tout ça sous une forme condensée dans un petit livre, les 4 accords Toltec. Bon. On n'a pas de traces écrites de la civilisation Toltec. Donc, vous imaginez bien, quand vous savez comment fonctionne la transmission d'informations oralement, que depuis 1000 ans, il y a dû y avoir une sacrée déperdition, pour ne pas dire plus, de cette fameuse sagesse. Voilà.
Mais ça, je trouve ça vraiment fou, parce que c'est clairement quelque chose d'hyper populaire aujourd'hui.
Enfin, oui.
Dans la pop culture, ça, les 4 accords Toltec, on le voit partout sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment une information qui... Moi, je suis tombée de ma chaise en lisant ça, hein, vraiment.
Oui, mais c'est triste d'une certaine façon, parce que quand vous voyez le bandeau sur l'édition française, et le bandeau de l'éditeur qui vous dit que c'est le livre de sagesse le plus lu dans le monde, c'est triste de lire ça, parce que ça veut dire que les gens ne savent pas ce qu'est la sagesse, d'une part, parce que là c'est juste du bon sens à 3 sous hein, qu'on nous sert, mais alors la sagesse hébraïque, la sagesse biblique, la sagesse hindouiste, la sagesse médiévale, la sagesse de tous les grands auteurs spirituels depuis des siècles, où est-elle? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, vous voyez une espèce de façon d'évacuer tout un héritage culturel, mais quel que soit le pays ou la sphère géographique ou la religion, la spiritualité, peu importe, il y a des millions de pages à lire qui vont
Oui.
vous apporter un petit aperçu de ce que peut être la sagesse et sans vous expliquer qu'il faut que vous l'appliquiez, mais c'est à vous après de vous débrouiller avec ça. À être d'accord ou pas d'accord, peu importe, mais si vous voulez, il y a des gens qui ont vécu cette sagesse et qui n'en ont pas fait commerce, qui l'ont vécu dans leur chair, vraiment.
Oui. Mais c'est du coup, c'est enfin les gens n'ont pas accès à cette sagesse, mais tout le monde, enfin je veux dire, oui, tout le monde ne peut pas y avoir accès non plus, et c'est une illusion aussi d'accessibilité. C'est ce genre de contenu.
Alors, en 1950, je vous aurais dit oui. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ça. On a Internet. On peut avoir accès à tout. Il suffit simplement d'une curiosité, une petite curiosité
Ouais.
intellectuelle. C'est
Ok.
simplement ça. Sans se dire, oh là là, mais alors c'est la Bible, donc, oh, bah non, si c'est la Bible, c'est catholique, non, bah non, ça ne va pas, ça ne peut pas aller, je ne peux pas faire. Mais
D'accord.
oui, ma sensation, ça, vous voyez, c'est le résultat de préjugés qui, comme leur nom l'indique, sont des trucs a priori qui se dispensent par faiblesse ou par paresse d'aller voir par soi-même. On a tout à disposition, c'est quand même merveilleux, il y en a même trop. Mais ça, c'est vraiment une évolution, quoi. Avant, les ressources étaient rares, maintenant, elles sont pléthoriques. Mais essayez de lire même de la poésie. Je pense qu'il y a plus il y a plus de sagesse dans un recueil de poésie que dans tous les accords toltèques du monde. D'ailleurs, figurez-vous que la vie est bien faite, parce qu'il y a les quatre accords toltèques, mais on s'est rendu compte qu'on avait oublié au fond d'un tiroir un cinquième accord. Hein, voilà,
On les
on a remis
rappelle,
la
hein,
main
du coup,
dessus.
on les rappelle.
Et du coup,
Donc le premier, donc que votre parole soit impeccable. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Et donc le cinquième, ce
voilà.
serait.
Ah ben je sais pas, je l'ai pas lu.
S'il
Ah
y en a
non,
un
mais
cinquième.
ma résistance a des limites, hein. Je ne suis qu'un être humain. Non, non, mais vous voyez quoi, on remet une pièce dans la machine, quoi. Voilà, c'est reparti pour je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'exemplaires vendus. Et c'est magnifique parce que la sagesse se transmet visiblement de père en fils, puisque le fils maintenant a pris le relais de Don Miguel Ruiz.
D'accord. Ok. Ouais,
Voilà.
donc c'est.
Mais bon, voilà, c'est de l'amusement tout ça, quoi. Il suffit de, il y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on dit, hein. Il suffit de, c'est du, là, pour le coup, c'est du simple bon sens.
Donc c'est oui, c'est intéressant parce que enfin, vous dites c'est de l'amusement, c'est de l'infotainment. On peut parler d'infotainment. J'ai relevé le mot aussi le côté où on cherche à s'informer, mais ça reste du divertissement et on va pas forcément au fond des choses et creuser davantage le sujet.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une époque qui incite vraiment à la sagesse non plus, hein. C'est très difficile d'être sage, puisque le but, c'est quand même d'exister, donc de se manifester, notamment en réagissant par le biais des réseaux sociaux principalement, de donner son avis, c'est-à-dire de donner son opinion, qui est tout le contraire de la sagesse. C'est ça qui est difficile aussi à expliquer, mais... C'est, je veux dire, on le sait en théorie depuis Platon, c'est-à-dire plus de 2500 ans. On sait que, ah non, un peu moins de 2500 ans. On sait que entre l'opinion et la science, eh ben, il y a des choses, ce sont deux régimes de vérité complètement différents. Donc, donner son opinion, c'est très gentil, mais ça ne changera rien. Par contre, bâtir une analyse, reprendre les textes, les comparer, vérifier la méthode, tout ça, ben, voilà, là c'est autre chose. On n'est plus dans le même, on n'est plus dans le même niveau. C'est pas qu'on ne peut pas avoir d'opinion, tout le monde en a, bien sûr. Mais si vous voulez, ça s'oppose vraiment au temps long de la lecture, de la réflexion, de la sagesse. Oui, on n'est pas, on est dans une époque d'accélération, on est dans une époque d'immédiateté. Donc la sagesse, personne n'en a rien à faire aujourd'hui.
Et donc
Ou alors.
favorisé par les réseaux sociaux où on montre au-delà de ce qu'on on montre au-delà de ce qu'on a, mais on doit montrer aussi ce qu'on est et aussi être dans la performance de l'être aussi, c'est ça que vous
Oui, et puis
évoquiez dans
c'est pour
le
ça qu'on réduit la sagesse à des slogans. Voilà. C'est ça aussi, c'est la marque du marketing et de la publicité. Il faut que tout soit reformulable de façon
Ou des citations.
rapide et incisive. Voilà. ça se balance vite, on réagit, on est d'accord, on n'est pas d'accord, super, on n'a fait rien avancer du tout, surtout que souvent la citation est sortie du contexte, mais voilà, la sagesse, c'est quand même autre chose que ça.
Et du coup, comment ne pas culpabiliser après ça d'utiliser des méthodes de développement personnel comme la méditation ou se dire qu'on fait de la méditation, mais finalement, c'est complètement déconnecté de la sagesse ancestrale d'où vient cette pratique. Je me demande s'il y a un juste milieu en fait, à trouver ou comment sortir finalement du personnel et aller vers quelque chose de plus impersonnel ou collectif.
Honnêtement, je ne crois pas que ce soit possible. On est les fils et les filles de notre temps. Donc, grosso modo, on fait comme on peut. On se débrouille avec ce qu'on a. Ce qui est malheureux, c'est d'arriver à se dire que la sagesse dont on pouvait disposer, parce que si vous voulez, on pourrait dire oui, alors on critique le développement personnel, mais c'est une critique un peu élitiste qui méprise quelque chose qui est très populaire. Non, mais la sagesse populaire, ça a toujours existé. Seulement, ça existait dans des sociétés rurales qui vivaient dans des communautés pour le meilleur et pour le pire, qui vivaient au rythme des saisons. Voilà, il y a toute une sagesse. Tous les proverbes dont on dispose aujourd'hui viennent de là, des observations sur des dizaines, voire des centaines d'années. Il y avait une culture populaire qui a disparu. Alors, on a la pop culture, mais c'est quand même quelque chose de très, très différent.
Hein, oui.
Parce que ça, c'est le produit d'industries culturelles.
Ouais. Oui, bien sûr. Ouais.
Oui, c'est très difficile de lutter contre ça parce qu'on ne se rend même pas compte à quel point on est formaté. Tout le monde, on est tous formatés, à moins de se retirer dans le désert ou au désert, comme on disait avant, d'abandonner ses biens et de prier celui ou celle qu'on veut. Il n'y a pas de solution.
Mais du coup, on se retirerait complètement du social et...
Oui, donc ça n'a pas de sens.
C'est une forme d'abandon.
Ça n'a pas de sens.
Et sur le néolibéralisme aussi, vous dites près de 40 ans de régime néolibéral et en France, de temps de cerveau offert à TF1 ne peuvent pas ne pas laisser de traces profondes.
Oui.
Ça m'a... je sais bien qu'il y a un certain publicitaire, j'ai plus le nom, je crois que c'est...
C'est Guéla.
Ou Patrick Lelay, à l'époque de Coca-Cola, qui se vantait de vendre
du temps de cerveau disponible.
Du temps de cerveau disponible sur TF1, oui.
C'était le directeur, le président de TF1.
Voilà, ok.
Voilà, les choses sont souvenir. Dites.
Ouais.
Mais moi, je n'ai pas de télévision, vous voyez. Donc, de temps en temps, j'allume une télévision pour prendre un peu la température. Et je suis... assez catastrophé par le niveau de débilité de la publicité, quoi. C'est-à-dire qu'on nous infantilise en permanence.
Il n'y en a pas qu'à la télévision de la publicité. Ça, c'est pour,
oui,
pour
mais
le
c'est,
coup,
c'est, le modè- c'est le modèle de départ.
Oui.
Mais effectivement, il y en a partout maintenant. Je ne sais pas combien de centaines de messages de publicitaires nous bombardent en moyenne au quotidien, mais c'est tout de même hallucinant qu'on ne puisse pas regarder quoi que ce soit sans que la publicité s'invite. Publicité de plus en plus ciblée, d'ailleurs, de plus en plus efficace, bref. Mais tout ça aussi, ça correspond à l'image qu'on veut donner de soi, c'est-à-dire qu'on va, on va pas acheter un produit parce qu'il est de qualité, mais on va l'acheter parce qu'il nous permet de promouvoir une image de nous-mêmes. Mmh. On achète telle ou telle marque pour donner telle ou telle impression et, semble-t-il, révéler un trait de caractère de notre personnalité.
Voilà. Et vous dites aussi que tout repose aussi sur beaucoup l'émotionnel et finalement c'est aussi ça qui motive l'individu à soit à agir, à consommer, à se montrer aussi en fonction de toutes les émotions.
Oui, mais c'est ça la jouissance, c'est-à-dire que le désir c'est quelque chose qui se construit et c'est quelque chose qui suppose du temps. Le temps du désir permet d'apprécier d'autant plus quand on arrive à obtenir l'objet du désir, si on y arrive. La jouissance, c'est complètement différent. La jouissance, c'est le plaisir immédiat qu'on veut total. Mais c'est une illusion. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de la publicité, vous allez vouloir acheter tel ou tel vêtement, telle ou telle chaussure, ou je ne sais quoi, ou tel nouveau gadget informatique. Et puis dès que c'est fait, vous passez à un autre. C'est-à-dire que le cercle du désir, comme il n'est jamais contenté, on consomme toujours, 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 parce que jamais on n'est vraiment satisfait. On est toujours dans l'absence de quelque chose après lequel on court. Donc tout ça, c'est encore une fois, c'est le règne de l'accélération. Il faut lire le livre d'Hartmut Rosa, le sociologue allemand, qui s'appelle Accélération, justement, où il explique qu'on va de plus en plus vite, pensant qu'on va dégager de plus en plus de temps, mais qu'en fait non, puisque le temps n'est pas seulement une accélération mathématique, c'est aussi une intensification. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des choses pour se sentir exister. Donc on ne risque pas d'accéder à la sagesse si on est toujours occupé à droite à gauche.
On peut pas se sentir exister autrement, juste en contemplant la nature. C'est plus
Ben,
possible.
si, sans doute, mais le problème, c'est que la nature, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Hein, on n'a plus, tous les paysages sont complètement anthropisés. Tout ce qu'on a, c'est simplement des espaces qu'on préserve parce que c'est mignon et puis parce que ça nous fait du bien. Mais
En Occident particulièrement, j'y mets, enfin.
oui, c'est-à-dire que c'est des parcs, quoi, grosso modo. Je veux dire, on n'a plus de forêt primaire, toutes les bestioles qui nous emmerdaient ont été exterminées. Je veux dire, la nature, c'est simplement un joli parc bien ordonné. C'est devenu ça maintenant. Parce que si on vous dit, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est la nature, allez faire un tour au Costa Rica dans la jungle pendant 3 jours, et puis voilà, vous verrez ce que c'est que la nature. C'est pas vraiment reposant, hein. Ça incite pas non plus à la contemplation. Il faut juste survivre. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des constructions qui remontent à plusieurs siècles déjà. Mais se contenter de peu, ça me semble encore être une des voies les plus souhaitables. Mais encore une fois, ça, c'est une question de décision personnelle. L'une des grandes problématiques aujourd'hui, c'est également que notre imaginaire a été complètement colonisé, qu'on n'imagine plus par soi-même, que ce sont des industries culturelles, entre autres, qui, par le biais des séries, par exemple, ou des films, nous fournissent un imaginaire, mais on n'imagine plus par soi-même, on n'a plus de mythologie ou de légende, ou de choses comme ça. Ça n'existe plus, il n'y a plus de merveilleux dans nos existences, ça n'existe plus. Alors, bon,
C'est triste. Tout ça est triste.
Oui, c'est un peu triste, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut réensemencer nos imaginaires. Mais ça, encore une fois, je ne vais pas faire du développement personnel en disant que c'est à force de volonté qu'on va y arriver. Non, ce sont des choses qui se produisent malgré nous, dans notre dos, inconsciemment et collectivement.
Des épiphanies.
Oui, ça peut arriver, mais effectivement, il faut se rendre disponible à ça, et c'est très difficile. C'est très difficile.
Très
Mais
bien.
ce n'est pas impossible.
Bonne nouvelle. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange,
Je vous en prie.
Thierry Jobard. Et puis on va se quitter en musique avec deux propositions, donc Cocoon, Oh My God et Bobby Lapointe, Bobo Léon. Des choix parce que voilà, c'est des chansons que vous aimez.
Éclectique. Oui, tout simplement.
Tout simplement. Bah, merci et puis bonne journée à toutes et tous.
Merci.
À bientôt
Au
sur
revoir.
Radio Primitive. Engraved like a star on the page.
Et puis, ça n'a pas d'importance. Il a du bobo Léon. Il va peut-être canner Léon. Il a du bobo Léon. Oh, pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort.